savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré, Sophie Torlotin.
Les civilisations et les empires sont mortels. Mais même si les situations de domination n'ont duré que quelques décennies, les blessures demeurent par-delà les générations. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Le Togo fut une éphémère perle de l'empire colonial allemand sous protectorat de 1884 jusqu'à la défaite de la Première Guerre mondiale en 1918, avant de passer sous domination de l'Angleterre et de la France. Cette mémoire, le documentaire Togoland la réactive en retrouvant des images d'archives tournées en 1913 et en les confrontant à la mémoire vive des habitants actuels. Bonjour Jürgen Ellinghaus.
Bonjour.
De Lomé à la frontière avec le Ghana, vous avez sillonné le Togo pour questionner ce qu'il reste de l'époque allemande, les blessures du passé et la transmission brisée.
Ce chapitre de l'histoire allemande, 30 ans d'occupation, de spoliation et d'extermination, reste largement inconnu du grand public. Sous la pression du gouvernement namibien et d'activistes, Berlin s'apprête à présenter ses excuses pour le génocide des Herero et des Nama en Namibie. Mais pour le député Otmar von Holtz, lui-même descendant de colons, il faut un effort national bien plus important.
Il faut que le sujet soit abordé dans les écoles, et pas seulement dans les cours d'histoire. Et puis nous n'avons aucun lieu de mémoire, aucun monument ici en Allemagne. Or nous en avons besoin, car pour transmettre cette histoire aux générations futures, il faut en parler encore et encore, pour qu'une vraie culture de la mémoire s'ancre dans les esprits.
Voilà, ça c'était un extrait, Jürgen Ellinghaus, un extrait d'un reportage diffusé il y a 6 ans, donc en 2019, par France 24. Donc un reportage sur en Allemagne, est-ce qu'il y a, totalement une méconnaissance, un déni, un oubli, une occultation de cette histoire coloniale en Afrique de l'Allemagne. Est-ce que c'est ce qui vous a conduit, vous, Jürgen Ellinghaus, à partir au Togo, l'un des fleurons de cet éphémère empire colonial allemand en Afrique ?
Bon, les choses sont un petit peu plus compliquées, plus lointaines dans le temps aussi en ce qui me concerne. Parce qu'en fait, moi, je suis allé au Togo, je pense, premièrement par curiosité personnelle, mais aussi en connaissance des archives cinématographiques, dont une partie m'était connue depuis la fin des années 90 et dont j'ai constaté que personne ne s'en occupait vraiment, c'était pas des choses qui circulaient, que ce soit au Togo ou en Allemagne, sauf parmi quelques historiens spécialistes. Et donc, j'ai vu pendant plusieurs décennies que très peu de choses se passaient au niveau cinématographique en Allemagne autour du Togo. Une des raisons étant que la Namibie, dont il était question tout à l'heure dans le reportage, a un petit peu monopolisé et occupé le terrain en raison de ce scandale qui était la guerre des Allemands contre les Nama et les Herero au début du XXe siècle. Sachant que le Togo et tout ce qui s'est passé au Togo est un petit peu antérieur. Mais ce scandale de cette guerre avec des conséquences génocidaires a un petit peu occulté, disons, une espèce de normalité. Et avec les images que j'ai pu découvrir par la suite pendant mes recherches, on était beaucoup plus près de cette normalité, à savoir des chantiers, etc., des déplacements de population et de ces choses-là qui n'étaient pas tellement présentes dans le débat namibien. Sachant aussi qu'entre la Namibie et le Togo, il y a une différence fondamentale, qui est que le Togo était toujours une colonie commerciale, de commerce, tandis que la Namibie, c'était une colonie de peuplement, où on avait envoyé des dizaines de milliers d'Allemands pour les y installer.
Donc avec une forme de colonisation beaucoup plus violente.
Beaucoup plus forte et beaucoup plus violente, sans parler de l'étendue du territoire qui n'a rien de comparable. Et tandis que le Togo n'a jamais connu une présence plus importante que 350-400 Allemands à la fois, ce qui est vraiment très très peu, n'est-ce pas? Donc ce sont là des cas, vraiment des cas de figure très très différents, avec aussi des récits après des récits complètement différents à propos de cette histoire coloniale.
Et ces images d'archives, entre autres du cinéaste et aventurier Hans Schomburg, bon, j'imagine qu'elles étaient en accès libre, mais encore faut-il y accéder, encore faut-il les chercher. J'imagine que ce n'est pas un hasard si vous les avez, que vous les ayez retrouvées.
Et surtout, avant, faut-il savoir qu'ils existent? Parce que si j'ai eu connaissance depuis un certain moment du principal corps d'image, qui était un montage qui datait de 1917, d'un film qui s'appelle « Im Deutschen Sudan », au Soudan allemand, donc qui a eu connu plusieurs remontages dans les années 20 et qui a eu connu une première digitalisation dans les années 90, et qui faisait une présentation affirmative et assez, disons, qui montrait des aspects assez « normaux », entre guillemets, de la vie dans cette colonie sans jamais évoquer le cadre ou l'histoire coloniale en tant que telle. Mais il y avait d'autres images que j'ignorais pendant très longtemps et j'ai eu un peu de mal à les trouver, à savoir les images d'un grand chantier, de la station de radio que l'entreprise Telefunken a construit à 160 km de la capitale Lomé, à l'intérieur du pays. Et puis, il y avait aussi des images protocolaires, on dirait aujourd'hui actualité cinématographique, qui documentaient le voyage du principal responsable de la politique coloniale allemande, le secrétaire d'État de l'époque, en 1913, octobre 1913. Il a rendu visite aux différentes colonies allemandes d'outre-mer en Afrique. Et donc là aussi, ce sont des images singulières, uniques et très très précieuses dans l'histoire du Togo.
Et donc, Jürgen Hellinghaus, vous avez retrouvé toutes ces séquences tournées donc vers 1913, notamment par Hans Schomburg, et vous avez eu l'idée d'aller les projeter sur les lieux mêmes du tournage au Togo, avec déjà l'idée de faire un film de cette confrontation passé-présent.
Cette confrontation passé-présent, cette tournée de plusieurs tournées de projection, me paraissait le seul moyen et le seul argument de les sortir des archives. Parce que si ces archives étaient accessibles aux chercheurs et aux spécialistes, elles n'étaient pas la propriété des archives. Elles étaient déposées dans ces archives. La propriété restait dans la famille, dans la succession de Hans Schomburg. Donc, il fallait convaincre, il fallait dire, voilà, on veut montrer ces images au Togolais qui ne nous ont encore jamais vues. Donc on a pris le taureau par les cornes et puis voilà, donc on a tout n'était pas numérisé, il fallait parfois faire des copies numériques, il fallait aussi les sous-titrer avec des sous-titres français, même si c'était d'un effet très très limité. C'était quand même un travail de préparation, ne serait-ce qu'au niveau technique, assez considérable.
Hey, I thought it was all over.
What's up, Doji?
Hey, girl.
You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
Has it really?
Probably since, like, your last EP, All the Places You'll Go.
Oh, wow. It's been a minute, yeah.
I've been getting some calls. Oh. People are a little bit worried about you.
Not worried.
And I know that I was kind of that outlet for you, so...
You were.
Why don't you just tell me what's been going on?
Okay.
Remember old dude from 2019? Nice, clean nigga, did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wifey. I was so confused, what should Dochi do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the Zoom. Turns out the girl was really a dude. Nigga think he slick back till I slip back. Got my lick back, turn a nigga to a knick-knack. I moved on, dropped a couple of songs, and then I went and got signed. Now it's 2021.
Okay, I just feel like this is the perfect opportunity for us to just take a second and kind of unpack what's happened to you. You know, this guy cheated on you and...
Nah, fuck it. Platinum record this, Bible record that. I'm making so much money, I'm all over the net. I'm moving so fast, no time to process. And no, I'm not in a gang, but I'm always on set. Wristwatch, drip drop, label want the TikToks. Now I'm making TikTok music, what the fuck? I need a cleanse, need a detox, but we ain't got time.
time to stop. The charts need us. Fast forward me, 2023. I'm stacking lots of cheese and making money. My grass is really green and honestly, I can't even fucking cap no more. This is a really dark time for me. I'm going through a lot.
By a lot, you mean drugs?
I wouldn't.
Drugs?
No, it's a...
No?
It's a natural plan.
No, I'm not judging.
I'm not an addict.
I'm just saying.
I don't think...
You wanna talk about it?
I mean, fuck, I like pills, I like drugs, I like getting money, I like strippers, I like to fuck, I like day drinking and day parties in Hollywood, I like doing Hollywood shit, snorted Bollywood. What can I say? The shit works, it feels good, and my self-worth set an all-time low. And just when it couldn't get worse, my ex crashed my place and destroyed all I own. Whoopsie, made a oopsie, $100,000 oops made me loopy. I ain't a killer, but don't push me. Don't wanna have to turn a nigga guts into soup bean.
Whoa. Okay, Doshi. We don't wanna revert back into our old ways. So we're gonna try a breathing exercise, okay?
All right,
when I breathe, okay. You breathe, alright? Let's go.
Vous êtes bien sûr RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. C'était Denial is a River de Doshi, un titre de la playlist de RFI. Nous sommes toujours en compagnie du réalisateur Jürgen Ellinghaus pour parler du documentaire Togoland Projection. Jürgen, vous vous êtes rendu dans cette, avec des guillemets, ancienne pépite hein, de l'éphémère empire colonial allemand en Afrique, sur les traces du cinéaste Hans Schomburg, qui avait documenté des séquences en 1913. Première étape, Kamina, à 160 km de Lomé.
Kamina. Bina Kwini village Kamina. Yebepo, Oje Mezen souterrain. Et Jamangache, Kiri di Radio. Babouanga, Bobanga. Ani Kichabie. Ye bien à colline. Anna wa no kogé. Tana lo ti ka gbe han. Village yan. Bo gbe no don meji di no gugé na. O pe ni. Nana ya sigiri na ko aye jonu. Bo ba tem kam gidi.
Jürgen Ellinghaus, un villageois, vous montre, à ce moment-là, il est dans l'herbe, il vous montre les traces dans le paysage d'un projet télégraphique de l'État allemand. C'était une prouesse technologique pour l'époque. Et il vous raconte que les grands-parents, les parents ont travaillé sans salaire, hein, des travaux forcés, donc, qui ont duré 3 ans, puis la Première Guerre mondiale a éclaté. Donc, tout cela pour rien. Et en même temps, il y a ces traces comme ça, ces cicatrices dans le paysage.
Oui, et puis il y a sorti surtout cette frustration que M. Degbe, comme c'est comme ça qu'il s'appelle, exprime à un moment donné. Si seulement ces travaux qui étaient tellement durs pour nos grands-parents avaient pu nous bénéficier. Mais comme tout a été détruit par la suite, nous, les Togolais, on a jamais profité de ces infrastructures qui avaient été conçues et construites pour faciliter les communications entre l'Allemagne et ses colonies, et aussi la colonie de l'Allemagne du Sud-Ouest, Sud-Ouest Africa, aujourd'hui la Namibie. Donc là, Kamina, c'était un des lieux, une des stations de radio qui avait une valeur et une importance vraiment stratégique. Et puis finalement, elle a fonctionné pendant un mois et puis la guerre est venue et les Allemands, ils ont tout fait sauter à la dynamite parce qu'ils ne voulaient absolument pas que ça tombe dans les mains des Britanniques ou des Français.
Ce qui est fascinant, c'est que il y a les stigmates dans les champs, mais c'est aussi que la mémoire de la colonisation, elle s'est transmise de génération en génération.
Elle s'est transmise localement et régionalement. Je pense qu'on est loin de ce qu'on pourrait appeler un roman national togolais, parce que les expériences étaient trop locales, trop éclatées, trop contradictoires aussi. Et donc, vous avez, à chaque lieu que vous allez, vous avez des récits très différents, parce que, en général, le Togo se caractérise par une certaine germanophilie qui s'est construite certainement aussi en opposition à la présence française depuis 1914, de fait. Donc il y a là beaucoup de choses qui jouent, qui interfèrent, mais on peut parler d'un fond de germanophilie.
Et d'ailleurs, on l'entend bien, hein, cette francophobie, si je puis dire, hein, qui s'exprime en sous-texte dans le film. Et on est parfois très surpris, comme par exemple la commémoration, le Togo qui commémore les soldats allemands morts sur le champ colonial.
Alors il faut dire que cette cérémonie, ce n'est pas une cérémonie militaire, c'est une cérémonie civile qui regroupe les morts civils et militaires. Et les morts civils étaient beaucoup plus nombreux parce que la plupart sont morts de maladies tropicales. Donc ce n'est pas forcément un lieu où on commémore une victoire militaire ou autre. Par contre, les Français, ils commémorent le 11 novembre, massivement, chaque année.
Les Français, c'est-à-dire les Français expatriés...
L'ambassade de France, au Togo, en invitant tous les diplomates de tous les pays concernés.
Alors, à Kamina, vous filmez donc les traces de ce poste de radio-télégraphe, et puis vous projetez les images d'archives tournées en 1913 par Hans Schomburg. Oh. Là, il y a une femme qui reconnaît un des vestiges qui est sur son champ. Et puis, à un moment, alors, je ne sais pas si c'est une personne qui s'improvise ou une personne avec qui vous aviez parlé avant la projection, mais qui décrypte ces séquences tournées de 1913, qui explique comment on choisissait les hommes pour leur force, comment aussi il montre aussi, comme s'il commente les images en montrant comment les anciens préparaient physiquement les hommes pour qu'ils puissent résister à un travail dur.
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs le même personnage qu'on avait vu au début de la séquence.
Mais ça, il s'est improvisé commentateur ou c'est vous qui lui avez demandé ?
Non, absolument pas. Non. Mais ça, ce sont des choses que ses grands-parents lui ont racontées, ses grands-parents et ses parents, et que lui transmet à la jeunesse. Parce que là, en fait, le public, c'est le public vraiment du village. Et il y a 2-3 générations qui sont présentes et qui regardent ces films qui montrent le déroulement des travaux sur ce chantier de Kamina, filmé en 2 étapes. Fin 13 et début 14.
Et ça, c'est passionnant parce que justement, comme Sophie le disait, on entend des spectateurs qui racontent quelles écorces, quelles décoctions ont donné aux hommes justement pour qu'ils ne soient pas faibles. Et on savait que qu'ils étaient menacés de mort s'ils tombaient. Et c'est intéressant parce que c'est une mémoire, comme vous le disiez, Jürgen, c'est une mémoire qui est fragmentaire, qui est très locale, qui est dispersée et qui est surtout une mémoire vive. C'est-à-dire, on peut imaginer à quel point elle est fragile. Est-ce que vous, au Togo, vous avez rencontré beaucoup, on y viendra peut-être plus en détail tout à l'heure, mais des universitaires, est-ce qu'il y a tout un champ d'études plus savant, entre guillemets, plus scientifique sur cette colonisation ?
Ah oui, tout à fait. Il y a depuis des décennies des historiens et aussi des germanistes qui se sont penchés sur l'histoire coloniale allemande. Parce que, premièrement, il y a beaucoup d'archives allemandes qui sont restées dans les fonds d'archives des archives nationales à Lomé. Il y a aussi l'accès aux archives en Allemagne, qui est plus facile depuis une trentaine d'années, parce qu'en fait, une bonne partie de ces archives se trouvait en Allemagne de l'Est, donc était jusqu'en 1990, donc était difficilement accessible aux chercheurs étrangers. Et puis, il y a aussi un regain d'intérêt pour cette histoire coloniale qui est parfois racontée de façon très lacunaire dans les écoles. Il y a cette séquence qui fait rire tous les Togolais de ce petit groupe d'élèves sur un cimetière allemand, un petit peu dans la deuxième partie du film, où ils racontent ce qu'ils ont appris à l'école, mais appris par cœur. Donc, le 5 juillet 1884, l'Allemand Gustav Nachtigal a signé avec le roi Mlapa de Bagida le traité de protectorat. Bon, donc ça, tous les élèves togolais le connaissent, mais ça s'arrête un peu là. Après, on répète les stéréotypes, ils ont planté des techs, ils ont construit des chemins de fer, ils ont construit des hôpitaux, sans dire que les hôpitaux, ce n'était pas pour les Togolais.
Ce qui est étonnant dans ces projections publiques que vous organisez, Jürgen Ellinghaus, c'est que à différentes reprises, donc dans différents endroits, ce qui étonne ou peut-être fait rire de gêne, c'est de voir les ancêtres, donc ces aïeux d'il y a 100 ans, nus ou quasi. C'est des réactions qui reviennent beaucoup.
Quasiment à toutes les projections, parce qu'aujourd'hui, la société togolaise est tellement marquée par les codes vestimentaires occidentaux importés il y a une centaine, 150 ans par les missionnaires de chez nous, européens, et par ailleurs par le code vestimentaire musulman qui est toujours très, très présent dans le nord du Togo. Donc on a vraiment beaucoup de mal à imaginer qu'il y a une centaine d'années, la nudité qui n'est jamais une nudité totale, la quasi-nudité, à un moment donné, dans la traduction, il y a ce terme « habillement dénudé ». Donc, il y a un reste d'habits, mais on est quand même assez... Donc, il n'y a jamais une nudité totale. Et on a un peu de mal à voir aujourd'hui que, il y a une centaine d'années, les choses étaient très, très différentes à ce niveau-là.
Vous vous appuyez, Jürgen Ellinghaus, sur donc, ces séquences tournées en 1913 par Hans Schomburg, mais aussi sur le journal de voyage tenu par la comédienne Meg Gertz.
Je jouais, bien sûr, le rôle de la déesse blanche. J'étais censée avoir échoué, encore bébé, sur la côte togolaise, où les sauvages m'avaient trouvée et emmenée dans les terres, puis affectée à leur principal sanctuaire magique. J'étais devenue femme sans avoir jamais vu aucun être humain de ma couleur ni de ma race. Lorsqu'un chasseur blanc fut fait prisonnier par la tribu dont j'étais la grande prêtresse, j'étais naturellement attirée par lui. Je devais le libérer de ses liens et le guider dans sa fuite éperdue vers la liberté, par rochers et buissons, par monts et par veaux.
Meg Gertz est venue au Togo avec Hans Schomburg pour tourner une grande fiction. Quel était ce film ?
Alors, il y en a eu plusieurs. Ils ont fait 5 films de fiction, d'aventure. Mais alors, c'était
Dites une navet.
Oui, on peut dire des navets, vraiment. C'était des navets, des espèces de préfigurations de Tarzan avec toujours les mêmes schémas et toujours les mêmes stéréotypes. La femme blanche innocente, elle est poursuivie par les noirs méchants, etc. Les chasseurs d'esclaves veulent s'emparer de telle ou telle personne. Parfois, les bêtes sauvages attaquent et tout le monde est contre les bêtes sauvages. Enfin, c'est assez redondant dans le genre. Donc, ils en ont tourné 5 en tout. Et ils sont perdus, parce que quand les cinéastes sont revenus en Europe, ils sont allés à Londres pour monter, et au milieu du montage éclate la Première Guerre mondiale, et le matériel a été saisi par le gouvernement britannique comme propriété d'une puissance étrangère, et donc Schomburg était privé de la plupart de ses rushs. Il a pu mettre de côté les images documentaires, donc, qui ont dans des tissus ce montage de 1917, là, au Soudan allemand, que j'ai mentionné tout à l'heure. Mais les films d'aventure sont perdus. Par contre, nous avons des précieuses indications sur le contenu et sur les conditions de tournage et sur les intentions des cinéastes à travers ce livre, donc.
Que vous avez apporté.
Que je vais apporter. Qui a été publié en langue anglaise en 1915. Donc c'était en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Donc ce livre n'a pas eu une grande distribution en Europe. Il était édité aux États-Unis par une maison d'édition de Londres et la traduction française, elle date de 1996. Donc c'est presque un siècle, 80 ans plus tard. Et la version allemande, encore un peu plus tard, de 1999. Et ce livre, qui donne des précises informations sur le tournage et parfois des détails très très précis sur les lieux et les conditions de tournage, était aussi pour nous un petit peu le guide de nos voyages, de nos tournages de projection. Parce qu'il nous donnait les lieux exacts des projections que nous avons regroupés dans un autre ordre, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était de revenir sur l'histoire de la colonie allemande du Togo. Et donc, nous avons commencé dans le film avec la fin de cette histoire, c'est-à-dire avec la Première Guerre mondiale, Et en rétro, dans une espèce de rétroviseur, nous détricotant l'histoire togolaise jusqu'à ses débuts, qui sont dans le film à la toute fin, c'est-à-dire sur la plage d'Anejo.
Donc ce journal de Merguez, c'est une mine d'informations et permet aussi d'éclairer les séquences que vous projetez.
Est-ce que nous avons aimé ? Si nous avons aimé, acclamons nos parents, nos anciens parents.
Nos grands-parents dépensaient leurs énergies en échange du sel. Donc c'est la seule chose que le blanc pouvait nous faire. C'est le troc-là ou bien comment?
Les chefs voudraient nous partager quelque chose.
Nos parents quittaient ici à pied pour aller à Tapamé chercher du sel. À pied. Sans le chemin de fer jusqu'à Tapamé, on n'aurait pas ce sel-là. On le trouverait peut-être à Keta, au Ghana, à Nihon, puisque c'est à partir de l'eau de la mer qu'on trouve ce sel-là. Donc c'est une denrée que nos parents cherchaient. Merci.
Voilà, parce qu'en fait, faut raconter, en fait, les habitants étaient payés en sel, c'est ça?
Alors,
pour certains,
les porteurs étaient payés en sel. Et bon, il faut imaginer, Schomburg, Megertz et leurs camarades britanniques n'étaient pas tout seuls. Ils ont apporté du matériel technique et aussi des vivres et des habits, etc., pour 6 mois. La colonne de porteurs allait jusqu'à une centaine de personnes. Donc il faut imaginer une centaine de personnes traverser la brousse, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les routes qu'on connaît aujourd'hui. Et c'était une entreprise extrêmement pénible pour ces porteurs. Mais le sel était quelque chose de très, très apprécié. Plus on allait vers le nord, et là où cet enregistrement a été fait, ce tournage a été fait, on est déjà assez loin dans le nord, donc on appréciait ce sel qui était effectivement considéré comme une richesse. Mais de nos yeux aujourd'hui, Schomburg s'en est vraiment tiré, très bien tiré.
À très bon compte.
À très bon compte, avec 2 tasses de sel par porteur par jour.
Et justement, d'ailleurs, les spectateurs s'en indignent.
Ils sont un petit peu scandalisés.
Beaucoup. Justement, je voudrais revenir, Jürgen Ellinghaus, sur votre dispositif, puisque c'est quand même assez extraordinaire. Vous, avec ces archives, vous avez sillonné le pays. Et le Togo est un pays où la liberté d'expression est très contrôlée. Donc, j'imagine qu'on n'arrive pas dans n'importe quelle partie du pays avec des projecteurs en disant on va projeter un film. Enfin, comment choisissiez-vous les gens qui venaient? Est-ce qu'il y avait des annonces avant d'arriver? Comment ça se passait?
Bon, alors, la première chose à faire, c'est se poser la question, bon, comment on va projeter? J'ai assez rapidement appris qu'au Togo, il y avait une structure qui existe aussi dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le cinéma numérique ambulant. Donc, c'était une cinéma mobile, ou plutôt un écran monté sur une voiture qui sillonne le pays avec un projectionniste, un chauffeur. Et donc ça, c'était déjà quelque chose de très, très important pour nous, parce que c'était un petit peu le pilier de nos... Cette équipe-là était...
Vous aviez une logistique.
Voilà, on avait une première logistique. Maintenant, le deuxième pas, c'était trouver un producteur exécutif au Togo qui avait aussi le contact avec les autorités qui donnaient les autorisations de projection et de tournage. Parce que pour les projections et pour les tournages, il fallait avoir les autorisations ministérielles que nous avons obtenues, parfois très tardivement. Mais donc, il fallait faire la liste des lieux où on a voulu faire nos projections et tournages. Et on a eu, parfois après quelques explications, sur notamment le caractère historique des images projetées, nous avons eu ces autorisations. Maintenant, une fois sur place, il faut s'organiser avec les autorités locales, à savoir avec la police locale, avec le préfet, avec le maire, etc. Donc ça, ça faisait parfois des journées assez longues. Et au milieu, on est allé voir les stations de radio locales où on a fait des émissions d'annonces, parfois jusqu'à une heure avec le livre, avec des citations dans les deux langues, en kotokoli, en français. Et nous avons convoqué les gens, venez, venez, ce soir, on va vous montrer des images du Togo allemand d'il y a une centaine d'années. Et donc nous n'avons jamais trié ou choisi nos spectateurs. Ils sont venus suite à ces émissions d'information ou aux communiqués qui étaient lus aussi toujours dans deux ou trois langues. Et les gens venaient tout seuls.
Y compris en allemand ?
Non,
non, peut-être pas.
Non, en allemand. Non,
et ça suscitait beaucoup d'enthousiasme. Il y avait beaucoup de monde qui venait.
Il y avait, malheureusement, dans le film, on ne le voit pas. Parce que nous avions une caméra qui était magnifiquement maniée par mon chef opérateur, Rémi Genquin. Et donc, à chaque projection, on était concentré sur ce qui se passait parmi les spectateurs. Nous n'avions pas le moyen, avec notre lumière et notre caméra, de montrer toute l'étendue du public qui était présent. À Kamina, où nous avons entendu tout à l'heure quelques extraits, il y avait 80 personnes. Plus loin, à Sokodé, première projection, 150 personnes. Deuxième projection, 200 personnes. Paratao, 200 personnes. Bassar, 600 personnes. Donc, on avait beaucoup de monde.
Boule de neige ?
Non, pas du tout, parce que l'information ne se transmettait pas entre les villes. Elle se transmettait à partir des villes envisagées. Par exemple, à Mango, c'était le lieu plus au nord, au Togo. On nous a dit, si vous revenez tous les soirs, vous allez avoir guichet complet pendant une semaine, sans problème. Ça intéresse beaucoup les gens. Ça les amuse aussi, parce qu'il n'y avait pas que des images de misère, d'exploitation, de soumission et de torture, etc. Il y avait aussi des images drôles dans les films de Schomburg. Et nous avons toujours montré tout le film pour montrer aussi toute la gamme des images que Schomburg avait voulu présenter au public européen à l'époque. On n'avait pas envie d'enfoncer les Togolais dans les traumatismes des générations d'avant.
Il y avait des images aussi de rituels. Et ce qui est aussi intéressant dans votre film, hein, Togoland Projection, c'est que, comme vous le disiez, il y a une mémoire qui s'est perpétrée localement, les mémoires des exactions. Et puis ailleurs, il y a eu un arrêt de transmission. J'aimerais qu'on entende un passage où on est en pays Konkumba, si je ne m'abuse, et on voit un jeune homme avec une coiffe traditionnelle qui est semblable à celle que l'on voit projeter des images de 1913. Et là, notamment, entre autres, ce qu'il chante aussi, c'est « Je ne connais pas la danse de mes grands-parents ». Et là, c'est vrai qu'il y a un effet troublant de parallèle, hein, entre deux époques à 100 ans d'intervalle.
On était parfois avec l'image projetée dans le même rythme des gens qui faisaient la musique, qui dansaient face à la caméra et devant notre écran de projection. C'est très surprenant. Il faut savoir que les Konkumba, cet accoutrement qui était celui de leurs grands-parents, il est toujours là aujourd'hui, il est toujours là dans toutes les grandes fêtes des Konkumba. On m'a dit que tout Konkumba, il a cette coiffe, cet accoutrement chez lui, pour les grandes occasions, les festivités, ou sociales, ou locales, ou familiales.
En tout cas, on ne sait pas où trouver ces archives-là. À Bandili, on a vu, à Bafilo, on a vu, ainsi de suite. Donc, c'est vrai que dans chaque film, il y a un point de vue, mais à travers une analyse bien poussée, on pourra reconstruire une histoire qu'on pourra enseigner.
Alors, on peut montrer les images aux enfants, parce que aujourd'hui, ce qu'on nous enseigne à l'école n'est pas exact. Les images disent peut-être plus de vérité que ce qu'on nous enseigne à l'école. Et les cours de cours primaire, là, vraiment, aujourd'hui, on découvre que c'est du n'importe quoi qu'on continue toujours d'enseigner. Alors, montrer permet à l'enfant de garder les images. C'est vrai, on oublie beaucoup les cours, mais les images restent dans nos têtes et on n'oublie pas. Même après 20 ans, l'enfant se rappellera toujours de cette image avec les chaînes.
En fait, par rapport à la colonisation allemande, il y avait un racisme qui était instauré. La population noire n'avait pas certains droits.
Vous terminez le film Jürgen Ellinghaus à Lomé, où vous projetez aussi les séquences à des cinéphiles et où vous filmez un débat entre cinéphiles. Et du coup, ces images et votre démarche, Jürgen, font question. Enfin, vous font question sur la pertinence ou en tout cas la façon dont on peut et dont on doit montrer ces images de 1913 au Togo.
Oui, tout à fait. J'ai voulu présenter ces films tout en posant la question, est-ce qu'on peut les montrer? Est-ce qu'on doit les montrer? Et si oui, qui? Et dans quelles conditions? Et ce sont ces débats-là qui clôt le film. Pour moi, il ne le clôt pas. Il ouvre sur autre chose, c'est-à-dire sur l'avenir de ces archives. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les garde chez nous à Berlin et personne n'y a accès? Et puis on dit aux Togolais, ah non, c'est trop dur, vous n'avez pas le droit de voir ça. Ça serait complètement absurde. Donc il faut quand même que ces images deviennent accessibles. Un premier pas a été fait en 2022, où, suite à la demande de l'Université de Lomé, des bibliothécaires, du directeur de la bibliothèque, et aussi de l'Université de Kara, des copies des films togolais de Chambourg avec les sous-titres français ont été mises à disposition à ces universités pour au moins déjà permettre aux chercheurs un accès, une analyse, un travail sur ces archives. Et à vrai dire, je pense que si on approfondissait l'analyse, et d'ailleurs c'est dit une fois aussi dans le film, ça pourrait vraiment donner un matériel pédagogique très très important et très très intéressant aussi pour l'enseignement de l'histoire coloniale dans les écoles du Togo, mais aussi du Ghana, parce qu'une partie de ces images proviennent de régions qui font aujourd'hui partie du Ghana.
Vous avez fait le tour du monde avec ce film, Jürgen Ellinghaus, non? Togoland Projection a décroché des prix au Bénin, enfin, en Égypte, en Argentine, mais j'ai vu que voilà, il était montré de la Bolivie à la Turquie en passant par l'Angola et l'Éthiopie.
Effectivement, ce sont là les projections à venir. Dans les mois à venir, c'est Portugal à la fin du mois de mars, Angola en avril, Éthiopie en mai, et qui sait, peut-être encore d'autres projections après. Effectivement, le film a suscité beaucoup d'intérêt. Moi, j'étais moi-même surpris un petit peu par cet écho, et j'ai eu l'occasion de me déplacer à Luxor, en Égypte, où le film a été projeté devant le public égyptien ébahi, mais qui m'a dit après, vous savez ces chansons qu'on entend au milieu, le griot qui se lamente des déplacements, des déportations, etc. Ben chez nous, les gens, ils chantent la construction du canal de Suez. C'est la même histoire. Au Bénin, pareil, on m'a dit, nous, on a connu les mêmes histoires. Au Maroc, on m'a dit, chez nous, on a eu les mêmes histoires. Donc, si ces images sont uniques et singulières, elles viennent du Togo, la portée de ces images qui viennent du Togo, elle est beaucoup plus universelle. Et beaucoup plus universelle que ce que j'avais imaginé moi-même quand j'ai commencé à travailler sur ce projet.
Merci beaucoup, Jürgen Ellinghaus. Togoland Projection, votre documentaire, restera accessible en streaming gratuit sur la plateforme de TV5 Monde Afrique jusqu'au 15 octobre. On feuillette les dernières nouvelles du Journal du Cinéma avec vous, Elisabeth. Juste après, Paris-Brazzaville de Léonie Pernet. C'est le choix de notre réalisatrice, Apolline Verlon.
Que le feu nous éteint.
Paris. C'est le moment du journal du cinéma avec vous, Elisabeth. En France, la production de « Donne-moi des ailes » est dans la tourmente. Mais alors pourquoi autant de bruit?
Eh bien, « Donne-moi des ailes », c'est ce film sorti dans les salles françaises en 2019. Film signé Nicolas Vanier et produit par la société Radar Film. Elle risque aujourd'hui une amende de 100 000 euros, Sophie, car les ULM du tournage ont survolé une zone protégée en Camargue, provoquant la panique de 8 000 flamants roses qui ont abandonné leur nid. Voilà, destruction de 500 œufs. C'est ce qui est un véritable massacre pour une espèce protégée. Et donc, voilà, le verdict sera donné au mois d'avril.
Toujours en France, Rachida Dati veut secouer le monde de la culture sur un autre front.
Eh bien, elle a dévoilé son plan pour combattre les VSS, les violences sexuelles et sexistes, en disant clairement qu'il faut mettre fin à la loi du silence. Alors concrètement, elle veut conditionner les aides culturelles, renforcer la cellule d'écoute psychologique et juridique, et même instaurer un responsable, même créer en fait un poste responsable enfant dans les spectacles. Donc une initiative qui arrive bien sûr en pleine révolution MeToo du cinéma français.
Et d'ailleurs, une accusation de parjure secoue le milieu du cinéma français.
Sandrine Rousseau, la présidente de la commission parlementaire sur les VSS, donc on le disait, les violences sexuelles et sexistes, a fait un signalement contre Serge Toubiana, l'ancien patron de la Cinémathèque française. L'actrice Judith Godrèche l'accuse d'avoir menti sous serment quand il a prétendu ignorer sa relation avec Benoît Jacquot, alors qu'elle-même affirme qu'elle a non seulement dîné plusieurs fois en couple, si je puis dire, chez lui, et même être parti en vacances. Serge Toubiana conteste fermement ces accusations et dénonce le point de vue dogmatique, dit-il, de la commission.
À Hollywood, une page du cinéma américain s'est tournée le 18 février dernier avec la disparition de Gene Hackman, l'acteur de French Connection et de Conversations secrètes. Et désormais, on en sait un peu plus sur la raison de sa mort et celle de sa femme.
Oui, on avait retrouvé son corps aux côtés de celui de sa femme et l'hypothèse d'un suicide à deux avait été évoquée. En réalité, comme on vient de l'apprendre, Gene Hackman est mort d'une maladie cardiovasculaire et sa femme, Betsy, donc décédée une semaine plus tôt. L'acteur âgé de 95 ans était atteint de la maladie d'Alzheimer et les médecins ont confirmé que son épouse donc, avait succombé environ une semaine plus tôt à un hantavirus, donc une maladie rare.
Et on termine sur une note technologique. La plateforme Amazon Prime fait parler d'elle avec une annonce.
Oui, alors on savait que c'était un peu officieux. Désormais, ça ne l'est plus. Prime Video se lance officiellement dans le doublage par intelligence artificielle avec 12 films et séries qui seront disponibles en anglais et en espagnol sans enregistrement de nouvelles voix humaines. C'est une première pour des fictions sur une plateforme majeure et ça fait bien sûr, Sophie, polémique en France et au là, toute l'industrie du doublage est sur le qui-vive face à ce qui constitue une menace majeure sur leur métier.
Et ça ne fait que commencer. On se quitte en musique avec un titre du nouvel album des Liminianas, Faded. I
She sat by the moon. My heart, it still swoons when I hear her name. 'Cause she was made of silver, golden threads and fibers, shining bright, the brightest, lightest way you'd ever see. And now she's fading.
Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré
et Sophie Torlotin. C'est Apolline Verlon qui a réalisé cette émission.
Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma, pour une émission consacrée à Robert De Niro. Et d'ici là, bonne semaine à tous.